On en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Depuis le milieu des années 80, il est l'ami des enfants. Dans ses histoires inventives, teintées d'humour et peuplées de mots parfois étranges, ses personnages prennent les petits par la main et les invitent à travers leurs aventures initiatiques et oniriques à se laisser porter par les rêves, les émotions et la magie de l'enfance, non sans affronter quelques monstres. Claude Ponty est avec nous. Il vient nous présenter son nouveau livre, Blaise, Isée et le Tue-Planète. Un livre paru évidemment à l'École des loisirs. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Claude Ponty.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Blaise et Isée ensemble, c'est la première fois ?
C'est la première fois.
Pourquoi maintenant ?
Bon, je peux vous répondre comme un homme politique.
Oula, mais non, vous n'êtes pas un homme politique, vous êtes l'ami des enfants, c'est pas pareil. Oui, pourquoi pas maintenant ? Et surtout, pourquoi pas avant ?
Non. Ils ont eu des aventures, effectivement, très séparées. Et à un moment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir Isée, qui était devenue une personne capable de décision, capable de mener sa vie et d'envisager son avenir, avec la bande de poussins dont Blaise, qui sont des gens plus dans l'instant, plus dans le moment, et plus prêts à faire ce qui les amuse ou ce qui va déclencher toute une série de mini-catastrophes rigolotes.
Voilà. Alors on va les présenter quand même, hein, Isée et Blaise, parce que ceux qui vous suivent depuis des années savent très précisément qui sont ces deux personnages. On va peut-être commencer par Isée, donc c'est une petite fille, mais qui a un petit peu grandi, comme vous le disiez.
C'est une petite fille qui, au départ, vit une aventure assez difficile, puisque ça commence pour elle par un accident de voiture où tout le monde est projeté dans le ciel, son père, sa mère, son doudou et elle. Et seul son doudou et elle, au début du livre, retombent parce que les parents ont été projetés beaucoup plus haut. Ce qui permet d'avoir une histoire sans parents, sans que ce soit un drame de disparition totale des parents, et de la faire affronter des situations où le gentil n'est pas gentil, etc. Et
qu'il faut se méfier des apparences.
Voilà, un petit coup, il y a de quoi se méfier des apparences, et c'est quelqu'un qui abuse d'elle. Par exemple, il joue au tennis avec, c'est la boule, la balle. Voilà, et donc elle est obligée de prendre en main son destin et de lutter et de vaincre et de devenir une personne beaucoup plus adulte, plus responsable. Au moment où, justement, ses parents, qui étaient montés très haut dans le ciel, redescendent. Et donc, la vie peut continuer. Et à ce moment-là, ma fille m'a dit, oui, mais là, tu vois, t'as fait une histoire et t'en fais d'autres comme ça, où le destin tombe sur les enfants, ils sont soumis aux circonstances. Moi, quand j'étais petite, si je prenais le métro, je voulais pas que le métro aille ailleurs, je voulais piloter le métro.
Ah bah oui.
Et donc, je me suis dit... cette Isée, il faut que je lui fasse ce que j'ai jamais fait, c'est-à-dire une suite. Et où elle décide de partir. Donc un nouveau stade, elle n'est plus soumise à sa destinée, mais elle décide de partir et d'aller vivre sa vie plus dans ses choix qu'autre chose.
Alors pour quelle raison vous lui avez donné ce visage un petit peu en forme de pomme de terre, Claude Ponty?
Vous m'auriez dit ça au moment où je l'ai dessiné, je l'aurais dessiné autrement.
Mais non, pas du tout, elle est très mignonne, votre Isée.
Oui. Je pense maintenant, avec le recul, que j'ai des fondamentaux dans la forme des corps et des visages, et que je m'en éloigne rarement. Donc, parfois, je peux avoir la même forme de visage, un peu en pomme de terre étranglée, comme ça, un peu en huit, mais pas tant. Et puis, je mets des grandes oreilles, des petites oreilles, je mets des oreilles horizontales, je mets une coiffure, pas de coiffure, donc je varie, mais en fait, c'est un peu comme les êtres humains, c'est-à-dire je travaille à peu près sur le même squelette.
Voilà, donc pour Isée, et puis donc il y a Blaise. Alors Blaise, on va dire que c'est un poussin, ou on va dire que c'est un poussin parmi les poussins ? Comment il faut le présenter ?
C'est très simple, c'est que Blaise, c'est le poussin qui met le masque de Blaise.
Voilà. Dès qu'il l'enlève. Tous les poussins de votre poussinière peuvent être Blaise.
Tout le monde peut être Blaise.
Alternativement.
Ça, l'avantage, c'est l'avantage du masque. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, une bêtise ou autre, oui. sans qu'on sache que c'est vous le responsable.
Enfin, voilà. J'espère. C'est beaucoup plus confortable.
Oui.
Alors, dans ce dernier album, il y a un poussin un peu particulier, un poussin absolument énorme, dont le dessin s'étale sur une double page. On va pas tout raconter, mais c'est évidemment un moment marquant de l'aventure de Blaise et Isée. Et vraiment, il est énorme parce que non seulement c'est la double page en entier, mais c'est aussi parce que le format de cet album est très très grand. Qu'est-ce qui vous attire dans ces grands formats, Claude Ponty?
De pouvoir dire plus de choses qu'on a dans un petit format.
Oui, c'est déjà une bonne raison, mais on se dit que quand on est un gamin, c'est compliqué à tenir un grand livre comme ça, non?
Non, quand on est un gamin relativement petit, c'est pas compliqué parce qu'on met le livre par terre.
Oui.
Ensuite, la plupart du temps, il y a toujours un adulte ou un pré-adulte qui est là pour tenir le livre et raconter l'histoire. Mais ça a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que par rapport à une personne petite comme un enfant, le grand format comme ça, surtout quand on est en double page, c'est plus grand que le champ de vision. Donc ça permet de faire que l'enfant soit plus complètement dans l'histoire.
Et donc ça l'incite à explorer le dessin.
Voilà, à se balader. Ensuite, ça permet aussi des rapports d'échelle beaucoup plus puissants. En fait, c'est-à-dire que dans un petit format, si je peux dessiner une fourmi toute petite dans la page, je peux la dessiner aussi très grosse dans la page, mais j'aurai pas toute la fourmi. Et j'aurais pas forcément le rapport, enfin ce qui fait que, en fait, dans ce cas-là, on a juste un agrandissement d'image, c'est-à-dire que on se retrouve pas dans la situation où on s'est un petit peu identifié, à tout d'un coup, je regarde en l'air, vous pouvez pas le voir, à tout d'un coup être obligé, voilà, de se mettre dans la situation petit par rapport au grand, et là d'intégrer, de vivre le rapport d'échelle qui est très fort.
Alors dans cet album, il y a des pages avec une énorme case hein, qui fait quasiment toute la planche, si on accepte le texte qui fait toujours trois lignes, hein, qui est en bas de l'album. Parfois, il y a deux ou trois cases, quatre maximum, pas toujours découpées d'ailleurs de la même façon. Et donc, il y a, en revanche, ce qui est récurrent, c'est vraiment les trois petites lignes de texte. Oui. Voici comment commence votre nouvelle histoire.
Jour matin tôt, aux environs de l'heure exacte où les poussins dorment encore comme des coussins rêveurs, un grand braum, boum, ohé, force leur porte. Dehors, le vaisseau spatial d'Isée, l'éclair 1, vient de s'écraser sur la maison des poussins. Elle est à moitié démolie, mais il n'y a pas de blessés. « Désolé, panne de carburant, j'ai raté mon atterrissage, » dit Isée. « Ce n'est pas grave, on reconstruira, » répond Blaise. « Je suis venue parce que j'ai besoin de vous, » dit Isée. « Il se passe quelque chose de très grave dans notre galaxie. Quelque chose de grave et d'horribilifique. » Un tue-planète détruit les planètes une par une, chacune de façon différente. Végule 3 est étouffée par une forêt mortelle. KH-27 n'est plus qu'un océan où il pleut tout le temps. Carmine 4 est une boule de banquise. Blogol est en ruine. Vlabok couverte de poils barbuliques. Sarkuz ravagée de cratères. Il nous faut vite construire le nouveau vaisseau et partir tous ensemble tuer le tue-planète.
Comment ça se construit un album, Claude Ponty? Vous commencez par les dessins ou vous commencez par les mots, par le texte?
Non, je commence par une idée, une image, tout ensemble. Hein. C'est une idée qui est une image, qui est une situation dont je sens la force, la puissance possible. Et après, je cherche comment la développer. Alors, ça peut être une situation centrale, et j'aurais besoin de trouver le ou les débuts et la fin. Ça peut être une situation relativement de début. Et là, j'aurais... vous voulez donner des exemples mais ça sera pas dans celui-là.
Non, mais allez-y. C'est intéressant de savoir comment vous travaillez.
Par exemple... Une fois, j'étais dans un square avec ma fille petite et j'étais sur un banc, je regardais, j'écoutais et j'ai entendu une phrase qui était je ne saurai jamais laquelle, qui était « Moi non plus, je n'ai pas peur de toi », ou bien « Moi non plus, je n'ai pas peur de moi ».
Et ça, c'est le début.
Et là,
c'est l'étincelle.
Voilà, je me dis, moi, je n'ai pas peur de moi, par rapport à un enfant qui est une personne en développement, en train de grandir, en train de s'affronter au monde, aux autres, d'essayer de se comprendre. C'est une phrase extraordinaire. Et donc, il a fallu que je trouve à qui ça arrivait. Donc ma petite Hippolène, je crois, elle s'appelle, et dans quel monde elle vivait, et qu'est-ce qui pouvait déclencher le fait qu'elle ait à prononcer cette phrase.
Donc vous reconstruisez une histoire à partir de ce petit détail qui harponnait votre œil ou votre oreille.
On a un élément qui est en fait un élément central du livre physiquement, il vient quasiment au milieu, et qu'il a fallu développer. Une autre fois... ça va encore être ma fille. Donc je faisais le coucher de ma fille, je mets sa petite chemise de nuit, et on avait oublié de dégrafer le bouton du col. Ce qui fait qu'elle était coincée dans sa chemise.
Oui, c'est arrivé à beaucoup d'enfants et de parents.
Voilà, c'est un grand classique. Donc elle bouge. Et puis j'ai fait le bouton, elle sort la tête, et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est fou. Elle a confiance, elle est sûre qu'en sortant de sa chemise de nuit, elle est toujours dans sa chambre. Et donc là, j'ai un début d'histoire. Donc après, je développais, mais c'est quasiment la toute première image du livre.
Regarde les étoiles en attente, c'est là-haut que tout se prépare. Quand elles deviennent filantes, c'est que quelqu'un arrive ou part.
Papa, dis-moi qui j'étais avant d'arriver sur Terre. Un personnage de conte de fées, une esquisse, un courant d'air.
Tu vois les étoiles, mon trésor, c'est là-haut que tout se conçoit. Quand l'une d'elles brille plus fort, c'est que quelqu'un veille sur toi. Que nous sommes de passage, alors chantons.
Que faisons-nous sur ce caillou?
Nous garderons de ce voyage cette chanson.
Papa, dis-moi, ma petite heure, est-ce qu'elle arrivera bientôt? Du firmament, d'une lueur, elle descendra de là-haut.
Regarde le soleil qui décline, on dirait qu'elle est en chemin. Un croissant de lune se dessine, c'est qu'elle sera du matin.
D'où venons-nous? Où allons-nous?
Puisque nous sommes de passage, alors chantons.
Que faisons-nous sur ce caillou?
Nous garderons de ce voyage cette chanson. Dans cette onirique épopée, cette aventure, nous n'avons pour bagage que des hypothèses. Dans cet infini voie lactée, où nos cœurs battent à l'unisson, les voyages forment la genèse.
Le grand voyage, extrait du dernier album d'Aldebert dans VMDN sur RFI avec Claude Ponty à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Blaise, Isée et le Tu-Planète à l'école des loisirs. Alors il y en a un de grand voyage dans ce récit, Claude Ponty. Vous avez l'habitude, depuis longtemps déjà, de publier comme ça un album par an. C'est un rythme que vous vous engagez à tenir absolument?
Alors en fait, quand j'ai commencé, je faisais un grand album par an pour la rentrée, et deux, trois petits ou un moyen pour le printemps. Je ne travaille pas vite, mais j'ai été élevé dans l'idée que dessiner n'était pas un métier. Quand est-ce que tu auras un vrai métier, hein? Et donc, j'ai un surmoi gigantesque et une forme de culpabilité qui fait que il faut que je travaille beaucoup. et sérieusement, je dois mériter l'argent que je vole pendant mes livres.
Mais donc ça veut dire qu'un livre, puisqu'après il faut évidemment l'imprimer, alors, un livre ça prend près de 9 mois comme la gestation d'un bébé.
Voilà, les gros livres c'est 9 mois. Ce qui fait que assez rapidement j'ai établi un rythme que j'arrivais à suivre. Et à un moment, bon, j'ai commencé à être un tout petit peu plus jeune qu'avant. Donc j'en ai fait plus qu'un par an. Et là, je me mets à tenter d'essayer d'en faire un en 2 ans. Mais en fait, je suis très malheureux quand je travaille pas.
Il faut on sent que c'est une passion et que vous avez besoin de ça, un petit peu comme un oxygène. Quoi,
voilà, hein. Il faut que j'ai des choses en route.
Alors, vous utilisez beaucoup le féerique, le fantastique, la fantaisie, un petit peu la science-fiction aussi, comme dans ce récit. Vous êtes un grand lecteur de ce genre de livres. En fait, vous adorez l'étrange.
Alors, j'ai lu énormément de science-fiction. Des années avec des recueils anciens, disons 40-45 à 90 par là. Après, j'en ai lu moins. Bizarrement, je n'ai jamais aimé le fantastique. Bon, j'ai quand même lu Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter.
Oui, il y a un minimum.
Oui, mais disons que le côté fantôme ou lutin et autres, c'était... j'aimais bien en voir, par exemple, il y a des tableaux des pré-raphaélites où on voit des lutins, des petites fées et tout ça. J'aimais bien, mais c'est pas exactement mon truc. Je suis plus du côté du conte, en ce sens que j'aime parler de la réalité autrement.
Par contre, il y a des monstres. Il y a beaucoup de monstres. Hein. Oui, alors, ils sont plus ou moins monstrueux, parce que souvent, ils ont une tête parfois assez sympathique, et il faut s'en méfier, hein. C'est ce que vous disiez vous-même tout à l'heure. Et ces monstres-là, ils ont un peu servi, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, hein, à exorciser vos propres démons. Vous en avez parlé, par exemple, dans votre premier roman, qui s'appelait Les Pieds Bleus, hein, paru aux éditions de l'Olivier en 95, vous avez raconté que vous avez été victime de violences répétées, que votre père vous frappait, que votre grand-père avait abusé de vous quand vous étiez gamin. C'était une nécessité de partager cette blessure avec vos jeunes lecteurs, y compris de façon détournée.
Alors, Les Pieds Bleus n'était pas un roman pour enfants. C'était un roman pour adultes.
Oui, édition de l'Olivier. On n'est pas à l'école des loisirs.
Ensuite, Ce qui m'arrivait, c'était que, d'une part, j'avais l'incapacité et l'interdit de dire, donc d'écrire. Quoique j'ai été un très bon élève en français toute ma vie, sauf que je racontais toujours autre chose. Et il s'est trouvé que, parallèlement à ça, j'ai toujours dessiné relativement bien petit, et tant que le fait de dessiner ou de peindre n'était pas dans l'ordre de l'ambition de devenir peintre, on m'a soutenu, plus ou moins, mais quand même, jusqu'à 11-12 ans, on m'a soutenu. Après, ça a été tragique. Ce qui fait que j'ai eu un domaine dans lequel j'étais libre, que personne ne pouvait comprendre ce que je faisais dedans, et que ça m'a permis de non seulement de vivre, de survivre, mais aussi de me développer, de pouvoir grandir, de pouvoir être dans des domaines intérieurs profonds. Et le premier livre que j'ai fait pour enfants était un livre sans texte. Et c'est parce que je pensais qu'un bébé n'avait pas besoin de texte puisqu'il savait pas lire. Et c'était une erreur fondamentale puisque la plupart du temps, le livre est lu par un adulte à un enfant qui ne sait pas lire, qui repère extrêmement vite que les petites pattes de mouche, les petites fourmis mobiles, ça veut dire quelque chose et que ça veut souvent dire la même chose qu'avant. Donc, j'ai eu à mettre des textes et ça a été très difficile. J'ai quand même réussi à écrire vers 40 ans.
Ah oui.
Pas avant.
Ah oui, il a fallu attendre tout ce temps-là.
À écrire directement, vraiment, ce que j'avais à dire, ce que je voulais dire.
Alors, les textes fonctionnent donc dans ce nouvel album Claude Ponty avec les dessins. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est pas toujours ils fonctionnent pas toujours ensemble de la même façon. Si j'ose dire que parfois, le dessin, comme dans la scène qu'on a écouté tout à l'heure, illustre les mots, à moins que ce soit les mots qui illustrent le dessin, d'ailleurs on ne sait pas trop. Et parfois, au contraire, on est plus dans la recherche de complémentarité entre les deux. Comment vous agencez le texte et l'image?
Alors, bon, il est convenu d'employer des mots comme le rapport texte-image, etc. Ce livre-là, effectivement, il commence à l'unisson. Le texte et les dessins disent la même chose, en fait. Bon, il y a des toutes petites variantes. En fait, c'est pas vraiment des variantes, c'est des détails de plus. Et ensuite, il y a une petite dissociation pour permettre de réfléchir, de prendre du recul et des distances, et aussi pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'un enfant très petit puisse à peu près comprendre tout le fil de l'histoire, et que des enfants plus grands ou des adultes puissent avoir tous les greffons, toutes les choses qui accompagnent et qui nourrissent plus largement le monde dans lequel ça se passe.
Alors, il fourmille de détails, hein, ces dessins qui sont les vôtres, Claude Ponty. Par exemple, il y a 8 pages sur lesquelles vous racontez la construction d'un vaisseau spatial. Alors c'est extrêmement précis, c'est plein de clins d'œil. Alors on a toujours cette colonie de poussins là, hein, c'est vraiment impressionnant. Mais chaque poussin a son rôle très précis. Et c'est vrai que l'enfant, mais l'adulte aussi, parce que moi je suis un adulte hein, quand même, j'ai regardé ça un peu ce week-end de près, eh ben peut passer des heures et des heures à examiner, à observer, à s'étonner.
Oui. Normalement là, dans la double page du chantier. Où il y a à la fois les dessins techniques pour envisager le vaisseau spatial et puis déjà des éléments de construction. Normalement, chaque poussin fait quelque chose qui est réellement en rapport avec la construction.
Donc rien n'est inutile dans votre dessin.
Alors oui, ça c'est joli comme question parce que effectivement rien n'est inutile au sens basique, c'est-à-dire qu'ils font des choses, mais rien pour moi n'est inutile dans ce qui apparemment n'a pas de sens ou pas de rapport ou pas d'utilité. C'est-à-dire que ça enclenche des réflexions, des départs d'imaginaire, d'imagination, de choses qui vont avec, en fait. C'est-à-dire que on peut pas avoir un atelier où on dessine ce que doit être un vaisseau spatial, où on a commencé à le dessiner, où on est 300 ou 400 à le faire, et imaginer que tout le monde a la même pensée dans la tête et tout le monde le même ressenti, le même espoir ou la même peur.
Et donc chaque enfant peut, s'il le souhaite, rentrer dans tel ou tel personnage et faire sa propre partie du chemin.
Oui, parce que les poussins sont quand même un peu conçus comme navigables, c'est-à-dire que être enfant et s'identifier à une héroïne ou un héroïn, ça peut être un peu compliqué si jamais l'héroïn fait pas...
L'héroïne. Oui, voilà, absolument, c'est logique.
Et si tout d'un coup, il s'engage dans quelque chose qui est un peu trop dur pour l'enfant. Pour des enfants beaucoup plus petits, le poussin, c'est un peu comme les schtroumpfs au début, ou les sept nains ou autres, c'est-à-dire que on peut naviguer dedans.
Mais alors justement, est-ce que vous n'en avez pas marre, au bout d'un certain temps, de dessiner toujours des poussins? Ça va être quand même... Même si chacun d'entre eux fait choses différentes, c'est pas fastidieux?
Non. En fait, les poussins, j'en ai fait dès le début. Dans l'album d'Adèle, il y a des poussins. Et à un moment, ça doit être le château d'anniversaire. Depuis 2 ou 3 ans, je me disais, il faut que je fasse un livre où il y a le maximum de poussins possible.
Oula.
et je trouvais pas d'idée. Jusqu'au moment où je me suis dit, un anniversaire, c'est génial, on invite tout le monde, et on fabrique le gâteau et tout. Voilà, j'ai dit, c'est génial, entendons-nous. Et ça m'a calmé un bout de temps, puis ça m'a repris. Et donc, j'en ai fait un autre, qui est le contrôleur de catastrophe. Et là, ça m'a repris encore, mais alors là, c'est plus On n'est plus dans le défi du nombre de poussins, on n'est que préoccupation écologique, comprendre ce que c'est qu'une planète, comprendre ce que c'est que la destruction, etc. J'avais plein de choses en tête qui à un moment se sont amalgamés, ça a pris comme un flanc quoi, autour du tube planète.
Alors, dans votre poussinière, Claude Ponty, il y a aussi deux sacrés loustiques, il y a Tromboline et Foule Bazar. Il n'y a pas que des poussins quand même aussi dans votre œuvre. Hein. Il y a par exemple Petroni la souris, il y a quand même pas moins de 120 petits. Donc voilà, tous les prénoms d'ailleurs se terminent soit par un, soit par in. Il y a Hippolène, vous l'avez cité tout à l'heure. Il y a Moua, Okilélé et quelques autres. C'est important les noms des personnages, c'est un moyen d'annoncer la personnalité une personnalité à l'enfant.
C'est très important puisque moi j'aime pas mon prénom.
Ah bon?
En gros, les souvenirs de l'expérience que j'ai de mon prénom ou les souvenirs que j'en ai, c'était pour me faire remonter les bretelles ou en guirlandais. Donc, c'est pas mon prénom en ce qui me concerne n'est pas lié à la tendresse, au se serrer les bras dans les uns des autres, etc. Et donc, je suis dans l'optique que la plupart du temps, les prénoms sont imposés aux enfants et soit ils contiennent l'idée de l'avenir qu'on veut leur octroyer ou leur imposer, soit, comme dans Hippolène, ils se fabriquent en fait un totem, un nom de personnalité parce qu'on rajoute des adjectifs, etc. Donc, par exemple, dans Kilélé, c'est la base du livre, puisque par rapport à ses parents et ses frères et sœurs, il n'est pas dans les canons de la beauté classique. Donc, sa mère ou son père, je ne sais plus, en le voyant comme ça, s'exprime au Kilélé. Et ça devient Okilélé, et on l'appelle comme ça. Donc ça montre la stigmatisation au départ, comment on se retrouve à porter un nom. Et en fait, en plus, Okilélé, c'est très très euphonique, c'est très c'est musical aussi.
Et c'est vrai que vous aimez la musicalité des mots. Non. Ça fait partie vraiment aussi de votre. Oui. C'est vraiment une caractéristique majeure de votre œuvre, Claude Ponty, l'imagination langagière. Oui. Alors, par exemple, si je vous dis éclapatouiller, ça veut dire quoi?
Bah, c'est quasiment un mot valise, c'est-à-dire c'est éclaté, patouiller, c'est aussi...
C'est aussi faire de la pâtisserie.
Oui, mais c'est les enfants qui rencontrent une flaque d'eau.
Quoi. Ah, voilà, oui, voilà, on patouille dans la flaque.
Sable,
voilà.
Être
tout sloumpi.
Sloumpi, ça m'est venu comme ça. J'ai aucune explication.
Bon, c'est d'après ce qu'on m'a dit, ça veut dire ne plus savoir où on habite parce qu'on est amoureux. Quand on a l'esprit un peu troublé par une belle rencontre, on ne sait plus trop où on en est. Quoi.
Mais là, c'est purement euphonique.
Bon, il y a le gros binet, qui devient un peu classique. Quelle est la différence entre rigolo, marrant et rigole marrant?
Ben, c'est quatre fois plus.
C'est quatre fois plus, absolument. Est-ce qu'on peut apprendre le Claude Ponty, puisque c'est un langage, le Claude Ponty, on peut apprendre le Claude Ponty à l'université, aujourd'hui, en France?
Je sais pas. Je sais s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, mais... j'ai pas d'encyclopédie ou de dictionnaire de mon vocabulaire. Il se forge... En fait, c'est le vocabulaire du livre, en général. Il se forge dans la nécessité de l'histoire.
En tout cas, vous êtes devenu un auteur de référence. Hein. On étudie vos travaux dans les recherches universitaires. Les chercheurs décortiquent comme ça vos albums. Vous y pensez lorsque vous les écrivez?
Non. J'ai un barrage, comment on dit en psychologie. J'ai un mur. C'est-à-dire que... est-ce que c'est un immense orgueil de ne pas vouloir savoir ce qu'on dit sur moi, ou est-ce que c'est l'inverse? En fait, grossièrement, j'ai pas envie de me prendre la grosse tête avec des grosses chevilles. Je me sens pas à l'aise là-dedans. Et souvent, je me protège en me disant, de toute façon, ils racontent des conneries, ils savent pas du tout pourquoi j'ai voulu faire ça. Ils m'ont même pas appelé pour me demander, donc...
Passons à autre chose.
Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule, Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet.
Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche.
Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte. Comme si j'étais responsable de toute la misère du monde. Moi, je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. Ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté.
Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu.
Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue.
Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air. Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père. Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place. Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face.
Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute.
Je suis épuisé, mais plus pour longtemps j'en suis sûr. Les sonneries téléphonent, la pression ont élargi mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir.
Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage. Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin, j'ai écrit tout va bien au dos de la carte postale.
Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens? Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent dans l'ascenseur. Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, il y aura plus de place pour nos racines.
Je suis fatigué, mal au dos et mal aux reins. Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens. On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris. On dit que ce pays n'est pas le mien, alors que c'est moi qui l'ai construit.
Je suis assis, et le destin a fait que je me relèverai jamais. Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé. Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leur porte. Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute.
Je suis heureux, jeune diplômé, esprit bête. J'ai étonné ceux qui rêvaient de me voir abandonné. Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers. Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère.
Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi. Et je leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras. J'ai compris que parfois les adultes sont paumés, parce que les plus grandes leçons c'est eux qui me les ont données.
Je suis énervé, dans mon quartier on s'ennuie loin de la ville. On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui deal. Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois. Au collège c'est le bordel, bientôt je devrais faire un choix.
Je suis loin, ce qui se passe.
Je suis Big Flo et Oli dans VMDN sur RFI. Alors j'ai lu Claude Ponty, que vous les connaissiez un petit peu, Big Flo et Oli.
On s'est croisés parce qu'ils ont bien aimé mes livres quand ils étaient enfants. Et ça s'est fait comme ça. Ils étaient pas loin, on a déjeuné ensemble. Ça me fait vraiment plaisir que vous passiez ça, parce que je fais pas partie du tout des gens qui décrivent ce genre de musique, d'écriture. J'écoute très très peu de chansons. Là, je suis devenu aux trois quarts complètement sourd. Donc j'écoute plus beaucoup, parce que mes appareils, c'est amplifié deux fois à la radio et là, ouais. Etc. Mais je connais pas bien le rap, ni les variétés de rap, mais je suis certain d'avoir à observer, assister, voilà le mot que je cherchais, d'avoir assisté de mon vivant à la naissance d'une nouvelle langue, d'une nouvelle poésie, d'une nouvelle capacité de dire les choses pour de bon. Je veux pas faire le pompeux et dire Baudelaire, Rimbaud, mais Baudelaire, Rimbaud, effectivement, se mettent à un moment à employer un vocabulaire considéré comme trivial. Ils disent pas de l'airain à la passe du bronze. D'ailleurs, ils parlent pas de bronze non plus. Et je pense que voilà, je les salue, et tous les autres qui ont la force et le courage de lutter à leur façon dans ce monde-là, en employant des mots qui deviennent des rois mots, des mots royaux.
Voilà les mots que vous utilisez, et effectivement Claude Ponty en même temps donc que vos dessins, avant de devenir la figure incontournable du livre jeunesse que l'on connaît, vous étiez donc artiste peintre. Vous avez commencé par la peinture. C'est vrai que qui vous empêchait de peindre aussi vos parents?
Non, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à un âge où on considérait que c'était un hobby.
Oui, ça allait, mais ça un métier, allait. Mais c'est pas un métier.
Mais en fait, c'est ma génération, c'est les parents font faire à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, on était trois garçons. Il y avait l'architecte, moi au milieu, le prof de français, et mon petit frère médecin. L'architecte a dévié assez rapidement vers quelque chose. Moi, j'ai jamais voulu être prof de français. Quand mon petit frère médecin, c'est devenu éventuellement vétérinaire, et en fait, il a continué saxophoniste de jazz. Donc, on a réussi tous à peu près à faire ce qu'on avait envie de faire, mais ça pouvait être assez violent. C'est-à-dire que l'endroit où je m'installais pour peindre, qui était un bout de cagibi au fond du jardin, un jour, c'était fermé à clé, je pouvais plus y aller. C'est ce genre de ou alors me faire convaincre. Chez le proviseur pour me faire faire des études de français, mais j'avais un proviseur qui était très 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 malin, c'est-à-dire que il avait un gros défaut, c'est qu'il préférait ceux qui faisaient latin et grec. Moi, j'étais en moderne, donc j'étais dans les classes méprisées. Mais en terminale, j'ai fait une exposition de peinture à l'extérieur. J'ai fait les décors d'une pièce de théâtre. J'ai joué un petit rôle dans la pièce de théâtre, etc. Ne pas voir que j'étais là où j'avais envie d'être. C'était... Et donc, mes parents, je me suis retrouvé dans le bureau du proviseur avec mes parents. Il faut voir qu'on était majeur à 21 ans à l'époque. Et moi, je devais avoir 18 ou 19, je sais plus. Et donc, ma mère qui est enseignante, fait le forcing pour que je devienne professeur de français, que je n'essaie pas d'être peintre, etc., que c'est la catastrophe. Voilà. Et le proviseur, très malin, a dit « Bon, oui, vous avez raison, il est très doué en français, une bonne note en philo, il pourrait faire un prof de français. Alors, pour qu'il fasse hippocagne, il faudrait que, pendant les vacances, il apprenne le grec et le latin, niveau terminal. » Alors, mes parents se sont regardés, moi j'ai ricané, j'ai dit, j'y arriverai jamais. Et en fait, après, je me suis barré. C'est-à-dire que, n'étant pas majeur, je suis parti faire autre chose. Mais il n'avait plus de poids sur moi.
Ouais, plus d'emprise, effectivement. Ouais. Alors, vous peignez, vous devenez aussi coursier pour le magazine L'Express. Oui. Et pour L'Express, eh bien, vous faites aussi quelques dessins. Vous devenez dessinateur de presse. Ça vous plaisait, cet exercice-là?
D'abord, c'était quand même pas négligeable de faire des dessins dans L'Express, car parallèlement, j'avais très bien entamé une carrière de peintre maudit, que j'ai réussi totalement. et donc, en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était formidable, parce que à l'époque, alors moi je faisais des petits dessins où il n'y avait pas de photos, où il n'y avait pas, c'était toujours un peu économique, un peu comme ci, un peu comme ça. Donc, j'étais coursier, il fallait que je fasse 3 ou 4 propositions de dessins pour le truc. Je rentrais chez moi parfois à 23h. Je faisais le dessin, et le matin, à 9h, je l'apportais. Donc, apprendre à lire correctement un texte, comprendre ce qu'il dit, comprendre comment en faire une synthèse pour qu'il n'y ait qu'une idée et qu'elle soit très claire, c'est un apprentissage fabuleux.
Et qui vous sert encore aujourd'hui ?
Oui, parce que contrairement aux apparences, chaque dessin particulier dans une page n'a qu'une idée. Il est très riche, il est très foisonnant, mais il ne dit qu'une seule chose. Et ça a vraiment été un très très grand apprentissage pour moi.
Voilà, et c'est quand vous étiez à L'Express que naît votre fille, Adèle, qu'on...
Non,
c'est... un petit peu plus tard.
Non, j'étais viré. Là.
Ah, vous étiez viré, d'ailleurs, à ce moment-là. Bon, voilà. Donc, en tout cas, votre fille, Adèle, naît. Vous voulez lui faire un cadeau de naissance. Vous lui faites un album.
Et je dessine l'album que je ne voulais pas éditer.
Oui, alors pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce petit cadeau très personnel, très familial d'un père à sa fille s'est retrouvé dans les rayons d'une librairie?
Eh bien, effectivement, je voulais faire un cadeau que je n'achetais pas. Je voulais le faire. Donc, j'ai dessiné un album. Mais comme je l'ai dit juste avant, j'étais viré. Je cherchais du boulot et je tournais avec un carton de dessin à proposer des dessins par-ci, par-là. J'ai été proposé des dessins chez Gallimard, qui avait une revue qui s'appelait Piranha, coédité, je crois, avec Télérama, il me semble. Et ça ne les a pas intéressés du tout. Ils se sont débarrassés de moi en m'envoyant dans le bureau en face où il y avait Geneviève Brisac qui était là en éditrice pour des nouvelles collections. J'avais apporté 2-3 pages de mon album d'Adèle pour dire ben voilà comment je veux travailler pour les enfants. Donc elle m'a donné un bouquin à illustrer. Et puis elle m'a dit j'aimerais bien éditer ça. J'ai dit non. Mais comment c'est revu plusieurs fois? Parce que je inventais des dessins et ça pour l'autre. Elle m'a pas lâché et finalement je l'ai fait. Voilà.
Et donc il y a eu l'album d'Adèle, ensuite il y a eu Adèle s'en mêle, deuxième album, et puis un petit peu plus tard Adèle à l'appel. Et là donc dans votre dernier album Blaise Isée et le Tue Planète, il y a une liste de dédicaces au début et pas de surprise. Donc la liste elle est très longue mais ça commence par pour Adèle. Donc Adèle est vraiment l'alpha et l'oméga de votre vie personnelle peut-être mais aussi de votre carrière.
La naissance d'Adèle, c'est quelque chose, c'est un événement qui m'a totalement transformé. C'est-à-dire que avant j'étais un pessimiste objectif. Pour moi, le monde était épouvantable. Je n'avais jamais été du côté des Américains, ni des Russes, ni de Mao, ni de Cuba. D'autres, j'étais tout le temps en porte-à-faux partout. J'étais incapable de m'inclure dans n'importe quel mouvement. Je ne pouvais pas aller dans une manif. À 32 ans, au journal, par exemple, si le directeur ou le rédacteur en chef m'adressait la parole, je me tétanisais, j'étais incapable de répondre et dans ma tête c'était pourquoi il me parle, j'existe pas, je suis pas là, pourquoi et donc tout ça est très compliqué la naissance de ma fille c'est le moment où on dit le bébé est une personne, on fait de l'autonomie avec, on fait plein de trucs. Et là, j'ai compris une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucune raison de faire un enfant, et il n'y avait aucune raison de ne pas en faire. En fait, ça ne dépendait pas de moi. C'était presque comme si c'était l'enfant qui décidait de venir. Donc, à un moment, je me suis dit, tu penses que ce monde, c'est la merde totale, c'est un bourbier, que c'est plein de crapules dans tous les coins, t'as mis un enfant dedans. Alors, tu vas continuer à dire ça, c'est pas beau, ça. Et je me suis inversé. Je suis devenu ce que j'appelle un optimiste décisionnel. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse le peu que je pouvais faire pour que ce soit mieux.
Et pour les enfants, puisque c'est pour eux
finalement que
vous travaillez. Donc dans la liste des remerciements au tout début, donc il y a pour Adèle, il y a quelques autres prénoms, et ensuite il y a les enfants de leurs enfants, les enfants des enfants, etc. Ça fait toute la page. Hein, donc on n'a pas le temps de tout lire dans l'émission. Que feriez-vous sans les enfants, Claude Ponty?
Qu'est-ce que je ferais? Je ferai ce que je fais parce que je sais pas faire mieux, mais disons que Greta Thunberg, je suis tout cœur avec elle, je trouve qu'elle a raison. Je trouve que tous les jeunes gens qui aujourd'hui disent qu'ils feront pas d'enfants, c'est tragique, mais je comprends pourquoi. Tous ceux qui disent qu'on leur a pourri la planète avant, j'ai pas envie de me sentir responsable dans le collectif, mais je vois bien que quand même, tout le processus qu'on a accepté depuis peut-être 1000 ans ou 2000 ans, c'est un processus monstrueux, destructeur. C'est l'histoire qu'on racontait dans les années 68-70 de la mare. Vous avez une mare et dedans il y a une algue. Et tous les jours elle double de surface. Donc pendant très longtemps tout le monde dit c'est pas grave, il y en a 1m50, 2m50. Mais l'avant-dernier jour elle occupe la moitié de la mare. Et personne ne comprend que le lendemain elle occupera toute la mare. Mais elle occupe toute la mare, donc elle meurt. La mare meurt, les poissons meurent et tout. Je trouve que c'est une très très belle métaphore du processus dans lequel on s'est engagé. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je l'ai lu à l'époque. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà.
Non, mais ça nous ramène à l'album. ça nous ramène à l'album Blaise Isée et le Tue Planète, publié à l'École des Loisirs. Merci beaucoup, Claude Ponty, d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Et les enfants sont à l'honneur aujourd'hui dans VMDN avec les œuvres de Claude Ponty, bien sûr. Mais je vous propose à présent de découvrir un nouveau lieu à Paris qui leur est dédié, la Philharmonie des enfants. Depuis le 29 septembre, en effet, les marmots de 4 à 10 ans peuvent y exercer leurs jeunes oreilles, mais aussi leurs petites mains, puisqu'il y a aussi sur place une sorte d'aire de jeu. Notre reporter Fanny Blechner a pris une cure de jouvence et s'est glissée au milieu d'une tripotée de bambins.
C'est un espace de 1000 mètres carrés auquel on accède par un petit couloir plongé dans l'obscurité. Au bout, une place centrale et 5 espaces colorés. Il y a par exemple l'espace jaune, la forêt des sons, où les enfants écoutent au casque les bruits produits en manipulant des instruments de cuisine et découvrent la conduction osseuse. L'espace orange, lui, est intitulé « Par ici la musique ». Django sort juste d'une petite salle avec sa mère, sa grand-mère et son petit frère. Ils viennent de tester le bruitage de film grâce à...
les chaussures, le gant de boxe et le moulin à café.
Pas forcément évident, mais la famille semble ravie. Paris gagné aussi pour la maman de Julia qui voulait avant tout
lui faire découvrir des très beaux opéras, d'entendre des jolis sons, la flûte enchantée, c'est chouette.
Et du haut de ses 5 ans, Julia a bien retenu tout ce qu'elle a vu dans la salle de vidéo immersive au son spatialisé.
Il y avait des gens qui faisaient de la trompette et des instruments qu'on met dans la bouche. Et il y avait aussi un homme qui était au milieu, qui donnait le signal.
Tout cela donc grâce à une vidéo sur les 4 murs d'une salle. Mathilde Michel Lambert est la directrice de la Philharmonie des enfants.
Nous, on a un parti pris ici qui est celui du low-tech, entre guillemets, qui est d'éloigner le plus possible les enfants des écrans. Il y a des écrans dans cet espace, mais pas dans une interaction qui est individuelle uniquement.
Ces écrans, ils permettent notamment de suivre une chorégraphie pensée par la danseuse Kaori Ito pour comprendre la notion de rythme. L'idée est de
faire ressentir avant tout, afin de mieux saisir les enjeux, les notions. Les enfants font leur expérience et en retirent d'abord du plaisir et puis ensuite des notions qu'ils vont pouvoir approfondir également.
Si les plus petits ne cherchent pas forcément à aller au-delà de l'aspect purement ludique, Thaïs, 10 ans, en testant le géant avant, a bien compris le fonctionnement d'un instrument.
Parce que je comprends qu'il faut mettre de l'air en appuyant sur le ballon et qu'ensuite il faut faire sortir l'air en s'asseyant sur le siège.
Les enfants évoluent librement d'un espace à l'autre sans suivre un parcours prédéfini. Parmi les multiples activités proposées, il en est une qui attire tous les curieux. C'est bien simple, Noah, 8 ans, est accro.
C'est la troisième fois que je la recommence.
C'est parti pour un concert, maman.
Au milieu de fumée blanche, le temps d'un morceau, les enfants se prennent pour les stars d'un groupe de rock, à la guitare, aux percussions ou au piano, et pas besoin de connaître le solfège pour ça.
Il y avait des lits, et il y avait des petits ronds en couleur, et sur le plateau, il y avait des petits ronds aussi avec des couleurs, il faut les taper sur les couleurs.
Et qui dit musique, dit aussi voix, un espace entier est consacré au sujet, au milieu, un immense globe terrestre lumineux, pensé par l'artiste Brecht Evans, le papa de Safia, originaire du Sénégal, lui fait écouter du Wolof, un moment de partage.
Safia ?
Hein ?
Le Sénégal sur la carte. Tu me montres ? Tous les mercredis ou le peu de temps qu'on a, là, on fait ensemble, on n'habite pas très loin d'ici, hein, à la Villette, donc dès qu'il y a une nouveauté comme celle-là, là, on se présente et c'est l'occasion pour nous de s'apprivoiser et puis de communiquer ensemble. Plus.
Dans le même état d'esprit, une mère et son fils sont pris d'un fou rire en s'essayant un jeu de pitch-pong grâce à leur voix.
Oh.
Autant d'activités qui
donnent une bonne idée de la musique dans sa globalité, enfin pas juste écouter. Il y a vraiment beaucoup d'interactions.
Tom, son fils, repartira d'ailleurs avec plusieurs souvenirs numériques, des vidéos prises au fil des salles et enregistrées grâce à un bracelet dédié proposé à l'entrée et destiné à poursuivre ce moment une fois rentré à la maison.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN. Demain, la chanteuse Janie sera avec nous pour son premier album « Toujours des fleurs » chez Play 2 et vous m'en direz des nouvelles. RFI.